Bonjour à toutes
et à tous.
Ce que je proposais surtout d'évoquer aujourd'hui, comme je l'avais dit d'ailleurs, mais je vais essayer de m'y tenir, ce sont les différents genres du conte et de la littérature orale, et aussi leurs fonctions. Et alors, pour commencer, je voulais quand même faire un petit point aussi sur l'origine controversée des contes et légendes de ce répertoire. Parce que pendant très longtemps, surtout au XIXe siècle, il y avait cette idée qu'il y avait des répertoires qui venaient de réservoirs, de civilisations mères, que par exemple tous les contes étaient originaires de l'Inde, ou alors de l'Afrique, ou d'une civilisation disparue, peut-être de l'Atlantide. Il y avait un peu des idées comme ça, et puis qu'après ils auraient essaimé. Ensuite, il y a eu cette idée d'archétype universel qui serait dans l'empiré, un peu, dans l'inconscient. Donc ça, c'est la grande théorie jungienne, qui rejoint un peu aussi les idées platoniciennes. Donc cette idée qu'il y a des archétypes préexistants, que des artistes, même des artisans, vont capter. Déjà, il y a en quelque sorte le prototype, par exemple, de la table, de la chaise... Et c'est pour ça qu'on retrouve ça aussi dans différentes civilisations. Donc ça, ce sont des théories qui ont vécu longtemps, qui ont eu beaucoup d'adeptes. Il y en a toujours d'ailleurs, notamment pour des archétypes jungiens. Mais des chercheurs aujourd'hui ont un peu démonté ces techniques, notamment comme Jean-Loïc Lequellec. Alors lui, il fustige... la théorie jungienne, et il essaye de démontrer qu'en fait les contes sont des voyageurs, des migrants en quelque sorte, qui n'ont pas cessé en fait de circuler entre les civilisations au gré non seulement des déplacements de population, mais aussi des invasions, des conquêtes, et puis bien sûr des routes commerciale. Alors on sait aujourd'hui que finalement il y a des civilisations qui sont en contact depuis très longtemps, même de manière qui était jusque-là méconnue, comme par exemple les Indiens d'Amérique, qui ont été apparemment coupés du monde pendant des siècles. Et en fait, déjà ils seraient originaires de Sibérie, donc ça c'est prouvé maintenant, donc il y a en fait une origine asiatique pour tous les Indiens d'Amérique. Et puis ensuite, on sait par exemple que ceux qui ont découvert l'Amérique, ce sont les Vikings aussi, bien avant Christophe Colomb. Donc, bien sûr, chaque peuple vient avec ses contes, ses récits, ses mythes, et au cours d'échanges qui ne sont pas que purement commerciaux, il y a aussi les échanges des histoires, on le sait aussi pour la musique, pour les instruments de musique. Donc voilà, ces histoires auraient circulé. C'est pour ça, par exemple, qu'on trouve chez les Indiens d'Amérique une version de Cendrillon, où bien sûr la fée n'est pas, comme chez nous, une dame blanche, mais c'est plutôt un esprit de la nature, un esprit surnaturel, selon les croyances amérindiennes. Donc en fait, chaque civilisation va reprendre la trame archétypale du récit, mais ensuite va la revêtir de son imaginaire et surtout de ses croyances. Voilà donc pour la circulation de ces récits. Alors on aura l'occasion de s'en rendre compte aussi avec certaines histoires dont je vous parlerai plus précisément. Dans les genres du conte, les grands genres, je vais commencer bien sûr par les mythes, c'est-à-dire des récits qui sont généralement des explications de l'origine du monde, la création, de la relation entre les hommes et les dieux, ou Dieu, s'il est au singulier, et comment finalement les lois de la création aussi se sont développées, se sont peu à peu transformé éventuellement, puisqu'il y a des mythologies évolutives, et notamment avec le rôle du trickster, l'empêcheur de tourner en rond. Alors chez les Indiens d'Amérique, chez les Esquimaux, c'est le corbeau, ça peut aussi être le chacal. Donc, qui ont des rôles de démiurge, en fait. Il y a aussi dans la mythologie scandinave Loki aussi. Donc, en fait, c'est un dieu malfaisant, mais du coup, qui joue quand même un rôle dans la création du monde pour faire bouger les choses, quoi. En fait, c'est l'empêcheur de tourner en rond qui fait que la création peut continuer d'évoluer, peut même parfois s'améliorer, parce que il a un rôle aussi ambivalent. Alors, dans ces grands récits fondateurs de civilisation, de vision du monde et de religion, je voulais prendre pas plus particulièrement un exemple comme le mythe d'Isis et d'Osiris. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, notre civilisation est pétrie de mythologie plurielle, parce que en fait, on a hérité des mythologies celtiques, nordiques, enfin nordiques et germaniques, antiques bien entendu, enfin dites antiques gréco-romaines et égyptienne aussi. On va essayer de voir un peu jusqu'où ça va. Alors, ce grand mythe de l'Antiquité d'Isis et d'Osiris, très abstrait, il y a bien sûr des grands dieux créateurs, notamment du ciel, de la terre. Après, il y a le ciel et la terre qui s'unissent, qui créent aussi d'autres dieux, même qui font ça dans le dos du dieu Ra, le dieu du soleil. Donc, il est quand même très vexé qu'il y en a dans son dos qui fassent d'autres dieux, dont quatre divinités qui deviennent très importantes et qui sont d'ailleurs frères et sœurs, mais qui vont s'épouser. Donc il y a Isis, la déesse, Osiris, donc cette divinité absolument solaire qui émane de la lumière et que tout le monde a finalement adore, vénère. Et en plus, c'est le grand dieu civilisateur qui amène l'agriculture et puis par ses émanations qui fait pousser, c'est un peu comme le Nil, c'est lui qui amène l'abondance, qui fait pousser le blé. Donc il est très lié d'ailleurs au culte du blé. Et ensuite, on a donc son miroir inversé, son frère Seth, dont le nom a un lien sans doute avec Satan aussi d'un point de vue étymologique. Alors lui, c'est le dieu plutôt malfaisant, alors très séducteur aussi, hein. Attention, il est fascinant, mais bon, c'est le dieu malfaisant qui amène la sécheresse. C'est vraiment, il incarne le désert, le souffle du désert, alors que Osiris, c'est l'abondance. Et puis il a une parèdre, puisque souvent les dieux comme ça sont. Il y a le côté masculin-féminin, donc sa parèdre c'est Nephthys, mais qui est aussi un peu amoureuse d'Osiris, le lumineux. Donc en tout cas, Seth est très jaloux de son frère et il voudrait bien prendre sa place. Peut-être qu'il est lui aussi amoureux d'Isis, qui est vraiment la déesse resplendissante, grande déesse qui incarne toutes les qualités aussi du féminin et de l'abondance. Donc, il fait fabriquer par les meilleurs artisans avec des pierres précieuses qui viennent de très loin, des sources du Nil, etc. Il fait fabriquer un coffre absolument merveilleux qui a une forme assez anthropomorphique, qui ressemble à un sarcophage. Et donc, il explique que ce coffre a toutes les proportions divines et qu'il l'offrira à celui dont le corps épousera parfaitement l'intérieur du coffre. Alors, comme le coffre est absolument somptueux, merveilleux, les autres dieux sont tentés de le posséder, et puis personne ne correspond exactement à la taille. Osiris essaye, il se couche dans le coffre, et aussitôt, Seth rabat le couvercle et alors met du plomb fondu pour sceller le coffre. Il avait sûrement dû mettre des incantations, des paroles magiques. Voilà qu'Osiris est piégé et meurt là dans le coffre qui est jeté dans les eaux du Nil par Seth. Donc le coffre disparaît. Alors, voilà que l'abondance. Les moissons, tout est en train de disparaître, tout se perd, c'est le souffle brûlant du désert qui est en train de gagner, le Nil qui se rétracte, C'est la sécheresse, c'est la famine, c'est calamiteux, et toute la création pleure la mort d'Osiris, et c'est sa femme, sœur-femme, qui va aller à sa recherche. Et finalement, elle va, donc c'est la preuve, ce qu'on appelle la première quête d'Isis, elle va apprendre que le coffre... Enfin non, elle va retrouver là directement le coffre qui est prisonnier des racines d'un arbre qui a poussé, qui a enserré le coffre. Et finalement, cet arbre, alors selon les versions, c'est un cèdre du Liban ou un tamari, va servir de colonne centrale au palais du roi de Byblos. Voilà, donc il devient le... la colonne centrale et tout le palais repose dessus, et donc voilà, il faut qu'elle aille récupérer cette colonne. Et toujours est-il qu'elle va réussir à se faire engager comme servante. Ça, c'est une chose qu'on retrouve beaucoup dans les contes merveilleux. Elle se fait engager comme servante dans le palais, elle récupère le coffre, et finalement alors là il y a plusieurs versions, mais bien sûr, elle n'a qu'une idée, c'est ressusciter son mari, parce qu'en plus, elle n'a pas eu d'enfant avec lui. Donc, il n'y a pas de continuité de cette royauté solaire sur la Terre, qui est donc condamnée à la décadence, à la désertification. Alors, bon, là, il y a deux versions, disons que ça se passe là. Par contre, pour le ressusciter, il lui manque encore... c'est une magicienne, hein. Isis, elle connaît des incantations, elle a des pouvoirs, mais elle n'a pas ce pouvoir vraiment de ressusciter, et donc il lui manque quelque chose. C'est le nom secret de Ra. Donc elle va chercher, elle va lui voler son nom secret, et après elle va pouvoir ressusciter Osiris. Et elle et sa sœur, parce que sa sœur est quand même là, elles prennent la forme d'oiseaux, et justement pour leurs incantations, avec les ailes d'oiseaux, elles arrivent à le ressusciter. Et puis donc, il a une érection, bien entendu, et elle peut s'unir à lui. Alors dans une autre version, Osiris est ressuscité, il peut féconder sa femme, mais... Voilà que Seth apprend ce qui s'est passé, il est absolument furieux, et il réussit à s'emparer du corps d'Osiris, et c'est là qu'il le démembre en 14 morceaux, qu'il va disperser dans toute l'Égypte. Et donc c'est la deuxième quête d'Isis qui commence, donc elle va rechercher tous les morceaux, et puis elle reconstitue le corps d'Osiris avec des bandelettes. En fait, elle fait la première momie, et là, elle retrouve pas le... Il y a un morceau qui manque, c'est le sexe. Alors finalement, elle en fabrique un en argile. Le sexe a été mangé par un poisson du Nil, je crois, qui depuis a des propriétés aphrodisiaques. Alors, justement, selon les versions, à mon avis, c'est plutôt là qu'elle est fécondée à la deuxième reconstitution, mais bon... Mais il va quand même pas survivre, hein, Osiris, il va mourir à nouveau après avoir fait son devoir conjugal. Du coup, il devient le souverain de l'autre monde. Voilà. Lui qui était le roi solaire, là, sur la Terre, maintenant, il devient le dieu gardien de l'autre monde, le soleil de la nuit, en quelque sorte. Et... Isis, elle devient la grande déesse, et bien sûr elle enfante Horus, mais alors les dieux ne veulent pas croire que, puisque son mari est mort, que c'est vraiment son fils, et elle doit faire reconnaître son fils, qui prend la forme d'un faucon. C'est connu ça, le faucon Horus, et il va combattre Seth, donc il y a une espèce de bataille cosmique interminable. Alors il faut savoir aussi que Seth et ses alliés attendent le dieu Ra aussi quand il, dans son voyage nocturne, avec sa barque solaire, quand il passe dans les eaux souterraines de la nuit. Et donc Seth fait partie avec un typhon, une espèce de dragon, fait partie des ennemis qui essayent de s'emparer de... la barque solaire. Donc il y a toujours ce combat éternel finalement entre la lumière et les ténèbres. Et puis Horus va quand même triompher de Seth, rassurez-vous. Voilà, en gros ce grand mythe qui est finalement la base de la religion égyptienne, mais qui bien sûr, comme vous l'avez compris, va influencer d'autres mythologies ou d'autres religions, puisqu'on a la mort, la renaissance, le remembrement, si on peut dire, la reconstitution d'un corps et sa résurrection, le passage dans l'autre monde et la résurrection. Tout ça, c'est des thèmes, bien sûr, qu'on va retrouver dans le christianisme. Donc on sait qu'il y a une origine égyptienne du christianisme. Et alors, par exemple, la déesse Isis, qui devient la grande reine sur la terre, l'un de ses symboles par excellence, c'est le trône sur lequel elle est assise, que parfois elle porte sur la tête, parce que c'est vraiment la déesse qui règne, la déesse mère aussi. Et donc, si vous allez bien sûr dans la cathédrale de Chartres, ben, vous retrouvez tous les symboles d'Isis, puisqu'il y a le trône, la déesse mère en majesté, qui porte. Alors, il y a beaucoup de représentations d'Isis qui porte Horus sur ses genoux et qui lui donne le sein. Donc voilà, on retrouve toute cette symbolique, donc ces archétypes qui ont été réintégrés par l'Église. Cette idée aussi du grand corps d'Osiris qui est reconstitué, qui devient le lieu aussi où le dieu est appelé et va renaître. Bon, bien sûr, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la résurrection du Christ, mais qu'on retrouve aussi par exemple dans l'édifice religieux lui-même, qui a la forme d'un corps humain, comme l'étaient les temples égyptiens aussi. On retrouve toute cette symbolique, toute cette mise en correspondance, intégrée dans un édifice chrétien. Et notamment parce qu'à l'époque, l'évêque, les chanoines, étaient des néo-platoniciens et des néo-pythagoriciens, c'est-à-dire qu'en fait, ils étudiaient les textes grecs, parce qu'ils avaient eu des traductions par les Arabes. Et donc, ils étaient complètement pénétrés aussi de la mythologie gréco-romaine. Et ils voyaient les équivalences, puisque bien sûr, arriver au centre du labyrinthe, c'est arriver au centre de l'être, d'où ce jeu de mots dans la langue des oiseaux entre labyrinthus et labor intus, le travail intérieur, le grand œuvre intérieur. Et puis, ce qui est magnifique dans la cathédrale, c'est la correspondance entre le centre du labyrinthe et le centre de la rosace avec le Christ en majesté. Alors, au 21 juin, s'il n'y a pas de nuages, il y a un rayon du soleil, je ne sais pas à quelle heure, qui va projeter en quelque sorte la diapositive du Christ au centre du labyrinthe, pour montrer que celui qui a retrouvé son centre est en communion avec son origine divine. Donc ça, c'est vraiment une lecture, bien sûr, complètement symbolique. Mais en fait, quand on rentre dans cette cathédrale, on rentre dans, finalement, un instrument symbolique complètement imprégné de mythes, de légendes, de récits anciens. On peut dire que c'est la projection d'un imaginaire dans la pierre, dans le vitrail, qui est d'une taille colossale. Donc ça devient un instrument de connaissance. On voit donc la continuité entre tous ces rites, tous ceux qui sont indissociables des mythes. Et puis on sait maintenant que, en fait, la plupart des récits bibliques sont d'origine antérieure, babylonienne notamment. Il y a une histoire d'Adam et Ève donc dans la mythologie babylonienne. Il y a le déluge, il y a l'arche de Noé. Enfin voilà, tout préexiste déjà. Alors d'ailleurs, la cathédrale, c'est une arche de Noé qui est faite aussi pour traverser les siècles, avec justement toute la symbolique qui doit être conservée. Bon, nous, on est les héritiers aussi, bien sûr, d'autres mythologies, hein, notamment gréco-romaines. La déesse Isis, bien sûr, les anciens voyaient les équivalences entre les divinités. Dans l'Empire romain, ils étaient très tolérants, ils acceptaient finalement la pratique de tous les cultes. Ça a commencé à se dégrader quand les chrétiens ont voulu imposer leur religion, alors que Jusque-là, ils avaient été eux aussi tolérés. Et donc, par exemple, le culte d'Isis s'est répandu aussi dans tout l'Empire romain. On trouve des statuettes. Là, il y en a une qui vient d'être trouvée en Allemagne, par exemple. Donc, les soldats romains qui peut-être avaient été en Égypte, certains étaient devenus des adeptes du culte d'Isis. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est un peu un prototype de la Vierge, parce que ça s'est répandu dans tout l'Empire romain, tout comme le culte de Mitra qui était d'origine iranienne, et là aussi où il y a la mort, la renaissance. Par exemple, l'un des plus grands conteurs de l'Antiquité qui s'appelle Apulée, c'est un berbère du second siècle peut-être, qui faisait déjà partie de l'Empire romain, puisque l'Afrique du Nord était dans l'Empire romain. Donc c'est lui-même un latiniste et un grand auteur latin, un immense conteur et on peut dire romancier aussi, qui a écrit donc Apulée ou l'Andor, les Métamorphoses. Et puis c'est lui qui a inventé le mythe de Psyché, par exemple. Donc là, on a vraiment l'invention d'un mythe par un auteur reconnu, mais on sait qu'il a repris on soupçonne qu'il a repris un conte merveilleux, sans doute berbère, et qu'il a adapté à la mode de la mythologie classique. Donc c'est lui qui a inventé le mythe de Psyché, et ce mythe, il a fait fortune, puisqu'on a même des œuvres d'art qui l'ont représenté jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Et alors, pour la petite histoire, donc ce mythe a été redécouvert notamment par La Fontaine, qui l'a réécrit en vers, qui donc l'a fait reconnaître. Et puis, à un moment donné, il y a Louis XIV qui voulait recycler un décor qui était au Louvre, un décor qui représentait l'enfer, et il voulait une nouvelle comédie-ballet pour pouvoir réintégrer ce décor. Il a passé commande à Molière, qui ne savait pas trop quoi. Et puis il a pensé à ce mythe de Psyché, parce qu'il y a une descente aux enfers dedans. Et donc il a fallu qu'il l'écrive, parce qu'il avait une commande pour une date. Il ne pouvait pas faire appel à La Fontaine, qui était un peu grillée, vous savez, auprès du roi, et pour différentes raisons. Et donc finalement il a fait appel à Corneille, qui l'a aidé à écrire la comédie-ballet pour qu'elle soit prête à temps. Voilà, mais c'est assez touchant de voir qu'un berbère du IIe siècle a inventé un mythe qui a perduré jusqu'à aujourd'hui et qui a finalement inspiré et La Fontaine et Molière. Voilà, mais c'est pour montrer justement le pouvoir de certaines histoires, comment elles perdurent, comment elles se transmettent, comment elles passent les civilisations et comment elles continuent justement de nous inspirer. C'est quand même assez impressionnant. Et donc on retrouve la même chose pour d'autres récits. En principe, un mythe, c'est un récit vivant dans une société qui féconde la vision du monde de cette société, qui est fondateur. Et puis quand une société, sa religion, sa vision du monde deviennent obsolètes, finalement, il y a des mythologies qui se conservent mais qui deviennent exotiques. Pour nous, la mythologie gréco-romaine, égyptienne, ce sont des belles histoires, mais on ne croit pas du tout. En tout cas, on peut plus s'approprier ces dieux-là. Enfin, il y a un retour vers le paganisme aussi. Il y en a qui se remettent à avoir des croyances dans la mythologie scandinave ou pourquoi pas dans l'Égypte ancienne. Mais en tout cas, ça reste quand même des récits qui nous sont extérieurs, alors qu'en principe, dans une civilisation, c'est vraiment les récits fondateurs, c'est la croyance à laquelle la majorité adhère, quoi. Donc c'est le cas, par exemple, encore aujourd'hui avec le christianisme. On sait que ce sont en grande partie des mythes et des légendes, mais pour certains, c'est même, on voit bien aux États-Unis, par exemple, pour certains, c'est une vérité pure et dure, et ils vont même jusqu'à rejeter la vision scientifique. Donc, c'est-à-dire, ils adhèrent complètement à la mythologie, quoi. Le fait que le monde a été créé en 7 jours, pour eux, c'est véridique. Voilà. Donc, la force des mythes.